VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du lundi 30 mai 2022 avec vous Eric Manelakidza. Voici d'abord le sommaire. Lac Tchad, une trentaine de djihadistes tués par la force multinationale. Escalade des tensions entre Kinshasa et Kigali.
C'est une crise, je dirais, qui est assez vieille. Mais surtout, je dirais, c'est une crise en soi qui a plusieurs paramètres.
Vous suivrez une analyse du professeur Jean-Pierre Karegeye de Dickinson College. Au Nigeria, 21 cas sont confirmés de variole du singe depuis janvier. Le président Biden exclut de livrer à l'Ukraine des systèmes de lance-roquettes pouvant atteindre la Russie. Après le fiasco de la Ligue des Champions samedi soir au Stade de France près de Paris, le ministre de l'Intérieur déplore les incidents et met en cause une fraude massive aux faux billets des supporters de Liverpool. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au moins 16 personnes ont été tuées par des rebelles des ADF dans l'est de la RDC, a déclaré à l'AFP Andy Kamieko, président de la jeunesse de Bolongo. L'attaque s'est poursuivie jusqu'au petit matin. Les forces de sécurité sont arrivées en retard, a-t-il estimé, indiquant que des corps étaient gardés à la morgue et d'autres dans les familles. Au Tchad, une trentaine de djihadistes ont été tués la semaine dernière dans le bassin du lac Tchad, aux confins du Nigeria, du Niger, du Cameroun et du Tchad, dans deux opérations de la force conjointe de ces pays. Le point avec Rosine Mounezé.
Les troupes tchadiennes, camerounaises, nigériennes et nigérianes de la force multinationale mixte FMM ont engagé le 21 mars une nouvelle offensive coordonnée et multidirectionnelle dans les quatre pays, baptisée Opération Intégrité du Lac. Les troupes et les frappes aériennes de la FMM ont permis de tuer plus de 25 terroristes dans un bastion djihadiste des environs de Tumbunrago, dans l'état nigérian du Borno, a détaillé dans un communiqué la force multinationale. 7 soldats du Tchad et du Niger ont été légèrement blessés lors de ces offensives, selon le communiqué. La FMM avait assuré début mai qu'une vingtaine de djihadistes avaient été tués dans le bassin du lac Tchad. Contacté lundi, et n'a pas donné le bilan total de son opération Intégrité du lac depuis son lancement il y a 2 mois.
Toujours au Tchad, une centaine de personnes ont été tuées il y a une semaine dans des heurts entre orpailleurs dans une région reculée et désertique du nord du Tchad, une zone de non-droit frontalière avec la Libye. Les heurts sont partis le 23 mai d'une banale dispute entre 2 chercheurs d'or qui a dégénéré, a affirmé par téléphone le général Daoud Yahya Brahim, ministre de la Défense. Le nombre de morts civiles et de violations des droits imputables à l'armée malienne, soutenue par des militaires étrangers, a connu une hausse exponentielle au premier trimestre de 2022. La mission de l'ONU MINUSMA dans le pays a dénombré 320 violations, dont la mort de 248 civils, indique la MINUSMA dans une note trimestrielle, sans préciser l'origine de ces éléments étrangers. L'ONU a exhorté lundi la junte au pouvoir en Guinée de rétablir le droit de manifester sur la voie publique après l'interdiction des manifestations à caractère politique en vigueur depuis le 13 mai. Les mesures annoncées par la junte violent les normes des droits de l'homme et représentent un recul sur la voie du renforcement de la démocratie et du respect du droit, souligne un communiqué du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Charles Blé Goudé a obtenu son passeport lundi à La Haye, plus d'un an après son acquittement de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, a annoncé son avocat dans un communiqué. Il a réitéré son intention de regagner la Côte d'Ivoire afin d'apporter sa pierre à la consolidation de la réconciliation nationale. Ses avocats maintiendront le fil du dialogue avec les autorités ivoiriennes pour convenir d'un calendrier de retour, dit Blé Goudé. Les autorités sanitaires du Nigeria confirment 21 cas d'infection au virus de la variole du singe depuis le début de l'année. Une personne est morte de la maladie. Le point avec Abdelhaman Dia.
Le Centre de contrôle des maladies du Nigeria, NCDC, a déclaré que 66 cas suspects ont été rapportés dans 9 états du pays, ainsi qu'à Abuja, la capitale. 21 de ces cas ont ensuite été confirmés comme étant des infections au virus de la variole du singe. La personne décédée est un homme de 40 ans qui souffrait également d'une maladie rénale. Mais la NCDC a tenu à rassurer le public, affirmant que le risque d'exposition à la variole du singe est élevé, mais les conséquences sanitaires sont relativement faibles. La situation actuelle dans le pays et dans le monde n'a montré aucune menace significative pouvant entraîner une maladie grave ou un taux de létalité élevé, estime l'organisme gouvernemental. La variole du singe, dont plusieurs cas ont été récemment détectés en Europe et en Amérique du Nord, est une maladie infectieuse causée par un virus transmis à l'homme par des animaux infectés. La transmission de personne à personne est possible, mais considérée comme rare. Jusqu'à présent, les cas confirmés dans les régions non endémiques sont généralement bénins et aucun décès n'a été signalé.
Le Global Mercy, plus grand navire hôpital civil du monde, a fait ses débuts en Afrique dans le port de Dakar. Le président sénégalais Macky Sall a formellement accueilli le Global Mercy lundi matin lors d'une cérémonie en présence du président de la Guinée-Bissau et du président des Comores. Les ministres de la Santé du Sénégal, de Guinée-Bissau, de Gambie, du Cameroun et du Congo-Brazzaville étaient également présents. Par ailleurs, trois personnes ont été placées en garde à vue par la police après la mort de 11 bébés dans un incendie à l'hôpital public de Tivoine, dans l'ouest du Sénégal. Selon des sources syndicales, elles ont été présentées aujourd'hui au procureur de Thiès.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a déclaré lundi exclure de livrer à l'Ukraine des systèmes de lance-roquettes à longue portée qui pourraient atteindre la Russie malgré les demandes répétées de Kiev pour obtenir de telles armes. Dans le même temps, l'Union européenne entend renforcer ses sanctions contre la Russie. Le point avec John Linden.
Nous n'allons pas envoyer à l'Ukraine des systèmes de roquettes pouvant frapper à l'intérieur de la Russie, a déclaré Joe Biden à des journalistes lundi matin. Des médias américains avaient affirmé ces derniers jours que Washington préparait la livraison de systèmes de lance-roquettes multiples à longue portée à Kiev après l'approbation par le Congrès d'une aide supplémentaire à l'Ukraine de 40 milliards de dollars. Mais le porte-parole du Pentagone, John Kirby, n'avait pas confirmé l'envoi de ces véhicules modernes et très mobiles d'une portée de tir de 300 km. Par ailleurs, les dirigeants européens qui devaient suivre ce lundi une allocution en visioconférence du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui souhaite plus de sanctions contre Moscou, tentait également lundi à Bruxelles de trouver un accord sur un embargo frappant le pétrole russe. Cet accord devrait permettre d'adopter un sixième paquet de sanctions contre Moscou sous la pression de la Hongrie qui a conditionné son feu vert à des garanties sur son approvisionnement.
Le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin a dénoncé lundi une fraude massive industrielle et organisée de faux billets lors de la finale de la Ligue des Champions. Ce rendez-vous a été émaillé de nombreux incidents samedi soir autour du Stade de France près de Paris. Le point avec Lionel Runanira Gahima.
70% des billets papier présentés au pré-filtrage étaient des faux et une fois passé ce pré-filtrage, plus de 15% étaient faux, a précisé Gérard Darmanin. 30 000 à 40 000 supporters anglais se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billets, soit avec des billets falsifiés, a révélé le ministre français de l'Intérieur à l'issue d'une réunion interministérielle organisée sur ces dysfonctionnements. Il a par ailleurs indiqué que 2700 billets n'avaient pas été activés sur les 79 000 vendus. La ministre de Sport a promis qu'il y aurait une compensation pour les détenteurs de ces billets. Monsieur Darmanin a défendu le dispositif mis en place par la préfecture de police de Paris pour sécuriser la finale. Pour avoir été sur place sans les décisions prises par la police et le préfet, il y aurait eu des morts, a-t-il dit. Monsieur Darmanin s'est dit désolé pour les spectateurs munis de billets qui n'ont pas pu assister au match et a exprimé ses regrets pour ceux qui ont souffert de l'usage des gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre. À 21h, l'heure prévue pour le coup d'envoi finalement retardé de la rencontre entre Liverpool et Real de Madrid, 97% des supporters espagnols étaient présents dans leurs tribunes contre 50% seulement des supporters britanniques, a encore dit le ministre de l'Intérieur.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voaafrique.com. Dans votre actualité économique, suivez la Minute Éco avec Nathalie Barge.
En République du Congo, ouverture ce 30 mai d'un forum international sur le partenariat public-privé à Kintélé, près de Brazzaville, visant à renforcer les investissements dans le cadre du plan national de développement. Un quart du programme de plus de 14 milliards de dollars est réservé au privé. Les secteurs ciblés sont l'agriculture, le numérique, le tourisme, l'immobilier et l'industrie. Au Sénégal, les douanes ont annoncé une saisie record de faux médicaments d'une valeur estimée à 1,15 milliard de francs CFA, soit près d'1,9 million de dollars. Les opérations se sont déroulées les 24 et 25 mai entre les zones maritimes de Thiaroy-Guedj et le quartier Thiaroy-Gar, précise le communiqué. Parmi ces faux médicaments se trouvaient notamment des antipaludéens, antibiotiques et antalgiques. Les groupes algériens Sonatrach et chinois Sougaz Limited ont signé un contrat de partage de production pétrolière de 490 millions de dollars sur un site du sud-est de l'Algérie. Ce contrat de 25 ans prévoit la réalisation sur le périmètre de Zarzétine dans la province d'Ilizi d'un projet qui doit permettre la récupération de près de 95 millions de barils de réserves de pétrole brut, indique l'agence APS.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
La finale de la Ligue des Champions CAF, c'est ce soir, Yacouba.
Oui, ça se joue à Casablanca, au Maroc, entre le Wydad et le double tenant du titre à la Ligue du Caire. Il s'agit de la 15e finale entre les deux clubs maghrébins. Les Égyptiens ont déjà remporté ce trophée à 10 reprises dans les deux dernières éditions. Al Ahly vise ainsi un triplé qui serait une première sur le continent. En face, les Marocains du Wydad de Casablanca comptent deux victoires dans cette Ligue des Champions CAF, remportée en 1992 et 2017. Ils sont donc à la recherche d'un troisième titre dans la compétition.
Le sélectionneur de l'Algérie s'explique sur la non-convocation de Riyad Mahrez.
C'est une non-affaire, déclare Jamel Belmadi avant le match contre l'Ouganda samedi à Alger, qui sera suivi par un déplacement le 8 juin en Tanzanie. La santé des joueurs passe avant tout. Nous avons reçu un rapport médical de son club Manchester City, soutient Belmadi à propos de l'absence en sélection de la star des Fenech. Il a raté des matchs importants avec son club et n'a pas pu terminer son dernier match en raison d'une blessure, a détaillé l'entraîneur qui s'est dit étonné des doutes quant à la bonne foi de l'attaquant de Manchester City. L'absence de Riyad Mahrez a fait naître une polémique dans les médias algériens et sur les réseaux sociaux qui a enflé lorsque le joueur a publié des photos de ses récentes vacances à Marrakech, au Maroc.
Basketball à présent, Boston défiera Golden State en finale de la NBA.
Oui, après 12 ans d'attente, les Celtics renouent avec la finale NBA. Ils ont remporté 100-96 à Miami, le 7e match décisif de leur joute de conférence Est en play-off. Boston sera opposé à partir du 2 juin à Golden State pour tenter de remporter un 18e titre record en 22 finales. Ce sera la deuxième confrontation à ce stade entre ces deux équipes emblématiques de la Ligue. En 1964, au plus fort de leur hégémonie, marquée par 9 championnats remportés d'affilée, les Celtics avaient pris le meilleur sur les Warriors de San Francisco. Les Warriors de Stephen Curry tenteront eux de remporter un 4e titre en 6 finales depuis 2015.
Enfin, Kunle Adeyanju est arrivé au Nigeria.
Parti de Londres le 19 avril, le Nigérien de 44 ans a parcouru à moto plus de 13 000 km et traversé 13 pays jusqu'à son arrivée dimanche à Lagos. L'objectif de Kunle Adeyanju, lever des fonds pour l'ONG Rotary International afin de soutenir la lutte contre la polio éradiquée depuis 2020 sur le continent africain grâce à la vaccination, mais où elle menace toujours. Je manque de sommeil parce que je n'ai dormi que 3 à 4 heures par nuit. Mais je suis fier de moi parce que j'ai accompli ce défi, se félicite le motard nigérien, escorté par de nombreux motards depuis la frontière avec le Bénin. Kunle Adeyanju a été accueilli par des dizaines de sympathisants en délire au centre Rotary d'Ikeja, un quartier du centre de Lagos.
C'était l'espoir avec Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manrekidza. Place au dossier du jour. Le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, le président en exercice de l'Union africaine, s'est dit dimanche gravement préoccupé par la montée de la tension entre le Rwanda et la RDC. Dans un tweet, il en appelle les deux pays au calme et au dialogue pour la résolution pacifique de la crise. Pour une analyse des relations entre les deux pays, Timothée Donangmaï a joint Jean-Pierre Karegeye, enseignant à Dickinson College en Pennsylvanie.
C'est une crise, je dirais, qui est assez vieille. Mais surtout, je dirais, c'est une crise en soi qui a plusieurs paramètres. Certes, il y a le Rwanda comme voisin, il y a donc d'énormes possibilités de paix ou de conflit. Mais aussi la crise actuelle, je crois, avec le M23, a plusieurs paramètres. Donc, outre les crises possibles entre les voisins, et c'est aussi une crise, me semble-t-il, sociale, politique et sécuritaire du Congo, me semble-t-il. Pour preuve, par exemple, il y a la MONUSCO qui est toujours là il y a plus de 20 ans et qui dépense plus de 1,2 milliard de dollars par an, juste pour vous donner une idée. Mais de plus, c'est une crise aussi qui est cyclique. C'est que chaque fois qu'il y a des élections qu'on prépare en République démocratique du Congo, donc il y en aura en 2023, il y a tout d'un coup la réactivation du discours nationaliste, un discours anti-rwandais, donc avant les élections. Et donc je me dis, par exemple, les rivaux du président Tshisekedi vont certainement essayer délibérément d'utiliser le Rwanda ou le voisin comme bouc émissaire. Et enfin, je dirais un dernier élément, disons, indépendamment du gouvernement rwandais actuel, et c'est là que je reviens sur la question de l'historique, c'est qu'il y a aussi toute une histoire en rapport avec les communautés rwandophones qui sont au Congo et qui ont souvent été stigmatisées. Et donc, il y a eu beaucoup de débats au Congo sur la nationalité, sur le sol, etc.
Au cours du week-end, le Rwanda a affirmé que deux de ses soldats ont été enlevés par les forces démocratiques de libération du Rwanda, que Kigali accuse la RDC de soutenir. Du côté de Kinshasa, on accuse le Rwanda de soutenir le M23. Alors, est-ce que l'appel au dialogue de l'Union africaine peut être entendu dans ce contexte-là?
Oui, parce que, de mon point de vue, je peux me tromper, je crois que le président Tshisekedi, personnellement, il ne s'engage pas dans l'histoire, du moins quand il a pris le pouvoir. Il était loin de l'usage d'un discours anti-rwandais, loin de là. Et je crois qu'il s'est beaucoup approché avec le Rwanda et tous ses voisins d'ailleurs. Et du côté du Rwanda, je crois que le Rwanda n'a aucun avantage à s'engager dans cette crise, pour plusieurs raisons. Donc, au moment où nous parlons, il y a moins d'une semaine, le Rwanda a accueilli la finale de la Coupe d'Afrique de basket. Le Rwanda va accueillir bientôt une grande réunion internationale sur la technologie, etc. Mais aussi, le Rwanda va avoir une grande réunion de Commonwealth et où il y aura plus de 100 000 délégués. Donc, je crois que le Rwanda, c'est le pays qui a moins avantage à entrer dans un conflit pareil.
C'était le professeur Jean-Pierre Karegeye de Dickinson College dans l'état de Pennsylvanie aux États-Unis.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
L'Union africaine a tenu ce week-end un sommet extraordinaire à Malabo. Au menu, il y avait la question du terrorisme qui gagne du terrain sur le continent. Mais les chefs d'État s'étaient aussi penchés sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Pour en parler, Abdelhamane Dia a joint à Dakar Ibrahima Kane, chargé de plaidoyer auprès de l'Union africaine à l'OCIO.
Surtout pour ce qui concerne le changement anticonstitutionnel de gouvernement, que l'Union africaine aurait pris des mesures énergiques pour faire face à un phénomène qui est le retour sur notre continent, à savoir les coups d'État, à savoir les manipulations des constitutions par des dirigeants qui veulent rester au pouvoir. Mais quand on jette un coup d'œil sur les décisions qui ont été prises, on a des raisons d'être un peu déçus. Déçus parce que les États africains semblent penser que ces problèmes, c'est d'abord des questions de procédure, Donc pour vous, c'est plus qu'une affaire de texte et de mécanisme, puisque ces mécanismes dont on fait allusion existent déjà depuis 10 ans au moins. Pour moi, les États africains n'ont pas, pendant ces 3 jours de réunion, vraiment pris à bras le corps les problèmes et essayé de leur trouver une solution. Et pourtant, il y avait un document de travail qui avait été élaboré par un certain nombre d'organisations qui s'étaient réunies à Accra au mois de mars et qui avaient posé un certain nombre de questions, comme par exemple la nécessaire révision du concept de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Qu'est-ce que l'Union peut faire pour revoir sa copie à ce niveau-là? C'était une des propositions phares de cette réunion, mais on ne la retrouve pas ici. Une autre proposition phare de cette réunion, c'était d'aller dans la même direction que la CEDEAO en ce qui concerne, par exemple, la question des troisièmes mandats. Mais on a même tout fait pour éviter le concept de troisième mandat dans le document.
Oui, mais Ibrahima, quand Moussa Faki, le président de la Commission, dénonce, je cite, les modifications de constitution aux fins de confiscation du pouvoir qui, dit-il, peuvent aboutir à des révoltes ou des coups d'État, est-ce que ce n'est pas une manière de répondre aux critiques face à l'inaction de l'Union africaine sur ces changements de constitution et au troisième mandat?
Le président de la Commission a beau dénoncer ce genre de situation, ce qui est important, c'est que dans la décision finale du sommet, on devrait trouver, en tout cas, une disposition qui prend en charge cette préoccupation. Mais on ne l'a pas ici. On ne l'a absolument pas.
C'était Imre Makan, joint à Dakar, au Sénégal.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, l'Union africaine et les changements de constitution aux fins de confiscation du pouvoir. Lors du sommet de Malabo le week-end dernier, l'Union africaine a certes condamné le retour en force des coups d'État militaires, mais elle a aussi dénoncé les modifications de constitution qui peuvent aboutir à des coups d'État ou des révoltes. L'Union africaine a-t-elle décidé de combattre avec le même engagement les coups d'État militaires et ceux que Mahamat Faki appelle les coups d'État rampants en référence au changement constitutionnel? Comment éviter les crises politiques nées de ces changements? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA.
Le président américain Joe Biden et son épouse Jill Biden se sont rendus dimanche au Texas où ils ont rencontré les familles endeuillées par la fusillade ayant fait 21 morts mardi dans une école primaire de Valdez. Le reportage de Mike O'Sullivan de la VOA, récit de Lionel Runanira Gahim.
Le couple présidentiel a visité le mémorial dédié aux victimes de l'école primaire Robb, où un jeune homme de 18 ans, armé d'un fusil d'assaut et de plus d'un millier de balles, s'était barricadé dans une salle de classe avant de tirer sur les élèves et leurs enseignants. Les Biden ont ensuite assisté à une messe dans une église catholique locale où les habitants du Valdez avaient pris part à un service religieux un peu plus tôt. Face à la tragédie, ils se sont encouragés mutuellement. George est un habitant du Valdez. George estime qu'il est peut-être temps d'imposer quelques restrictions.
Peut-être qu'il faut un certain contrôle des armes. Absolument, la santé mentale. C'est difficile à dire. Je suis moi-même un avide possesseur d'armes à feu.
Paul Castillo, un autre propriétaire d'armes à feu, est du même avis.
Vous n'êtes pas en sécurité à l'école. Ma femme est enseignante au lycée et je crains pour elle, vous voyez. Vous ne savez plus ce qui va advenir. Si cela arrive ici, cela peut arriver n'importe où.
Cleo Hernandez, autre membre de l'église, dit qu'elle tient sa force de sa foi, mais elle aimerait que les responsables gouvernementaux agissent.
Nous plaidons auprès d'eux et de nos représentants pour qu'ils écoutent les gens qui perdent leurs idées. C'est très important que nous changions les lois.
Pendant ce temps, la National Rifle Association, le puissant lobby des partisans du port d'armes, concluait sa convention nationale à Houston. Le groupe qui s'oppose à toute restriction sur les fusils d'assaut est politiquement très influent dans les États comme le Texas. Alors que le couple présidentiel américain terminait sa visite à Uvalde, les habitants continuaient de rendre hommage aux victimes de la fusillade de mardi, chantant et déposant des cierges, des fleurs et des messages écrits en leur mémoire.
Les Américains célèbrent aujourd'hui le Memorial Day. Cette journée commémorative rend hommage aux membres des forces armées des États-Unis morts au combat, toutes guerres confondues. Eddie Sango a joint l'analyste politique René Leck.
Eh bien, Memorial Day, c'est une fête fédérale ici aux États-Unis. C'est le lundi, le dernier lundi en fait du mois de mai. Et il s'agit de commémorer les sacrifices des anciens combattants, de toutes les personnes qui ont travaillé sous le drapeau américain, qui se sont battus sous le drapeau américain, donc soldats, militaires. À l'époque, et ça existe depuis 1868, hein, donc la fin du un peu la deuxième partie du 19e siècle. Au départ, ça s'appelait Decoration Day, hein, après la guerre civile qui s'est terminée en 1865. Et depuis 1971, c'est devenu une fête fédérale.
C'est un peu historique, mais aujourd'hui, dans les contextes actuels, qu'est-ce que ça représente pour les Américains?
Oui, écoutez, pour les Américains, ça représente une journée de commémoration, encore une fois, des sacrifices de ceux qui se sont battus pour l'Amérique. C'est un moment où les Américains se recueillent, vont en général dans les cimetières. Il y a quelques parades d'anciens combattants et autres. Et aussi, c'est un prétexte pour se retrouver et pour vous dire vrai, pour beaucoup d'Américains, c'est aussi la célébration du début de l'été. Donc c'est une combinaison de facteurs, on pourrait dire, si on voulait rassembler un peu tout ça en un mot, il y a également des parades, j'ai oublié de mentionner. Donc si on voulait rassembler ça en un seul mot, on pourrait dire que c'est une journée de commémoration, mais avec un esprit, dans un esprit festif en quelque sorte, notamment avec l'arrivée de l'été.
Pensez-vous que les Américains pourraient être influencés d'une manière ou d'une autre dans la mesure où la commémoration d'aujourd'hui tombe dans une période où il y a un débat sur les droits du port d'armes, vu les événements qui se sont déroulés ces derniers jours aux États-Unis?
Oh, difficile à dire, j'avoue ne pas trop voir le lien avec un tel événement, sinon que bon, bien sûr, quand on parle de militaires, quand on parle de soldats, on parle d'armes, bien entendu. Mais ici, on parle d'armes de corps professionnalisés. Ce n'est pas du tout la question qui est en jeu ici.
René Leck, éditeur de CNEWeb et analyste politique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOAAfrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal, de Georges et Léonard Sagnon, Joselle Morissin et Lionel Manila Garima. Au micro, Eric Manila Kidza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24. Un seul site internet, voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.